13h.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1012, aujourd'hui en ce samedi 10 juin 2017. On vient de démarrer avec le nouveau disque du mois, Monster Mike Welch et Mike Ledbetter. L'album s'appelle Right Place, Right Time, avec en special guest Laura Chavez, un album qu'on peut trouver chez Delta Groove. On aura l'occasion d'écouter, je l'espère, tout l'album, que ce soit pour moitié dans cette émission, et puis celle du 24 juin. Voilà, bienvenue à tous. Un sommaire un petit peu chargé aujourd'hui, avec pas mal d'interviews. En première heure, on aura tout à l'heure Davide Grandi, qui est le président de l'European Blues Union, qui est le nouveau président, j'ai envie de dire, puisque le président fondateur était Thomas Roof, donc le patron le bâton de témoin passe de l'Allemagne à l'Italie pour driver l'Europe. Voilà pour le blues. Et plus alentour de 13h40-45, on aura Thierry O au téléphone. Thierry qui est un ancien Normand et qui nous parlera de sa nouvelle ou déjà ancienne, on verra, passion pour la transmission du blues à nos chères têtes blondes, donc le blues dans les écoles. Et puis ensuite, en deuxième heure, entre 14 et 15, le micro sera ouvert à mes deux amis Jean-Christophe Panico et Laurent Choubrac à l'occasion de la sortie de l'album solo de Jean-Christophe Panico qu'on va découvrir donc en deuxième heure. Je n'oublie pas vos dédicaces, ce sera pour la troisième heure. On est ensemble jusqu'à 16h. On poursuit avec une nouveauté, Laura Cox Band, un album sorti en mars, mais que j'avais peut-être honteusement caché entre deux albums et dont je n'avais pas pu vous faire profiter. Voici Hard Shot Blues, Miss Laura Cox. Un matin, vous avez du mal à vous réveiller, vous mettez ça et ça marche. Hein. Laura Cox Burn, l'album s'appelle Hard Blues Shot, c'est le titre qu'on vient d'entendre. Voilà, vous avez peut-être entendu parler de Laura Cox qui démarre sa carrière depuis quelques années, c'est très très récent, en tout cas on la découvre maintenant en France, et son album sorti chez V Records, ça fait mal. On poursuit avec un artiste italien maintenant, en l'honneur de notre premier invité aujourd'hui, Davide Grandi, qui est le président de l'European Blues Union, une union de tous les acteurs du blues en Europe. Et oui, le blues est né aux États-Unis, mais il y a essentiellement, pour nous, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit en France, en Italie, en Norvège, en Allemagne, en Espagne, etc., etc. Il y a donc toute une série de pays qui sont, je crois, maintenant presque aussi nombreux que l'Union européenne officielle, et qui s'occupe de fédérer tout ce qui concerne le blues. Voilà, c'est une très très bonne initiative prise à l'époque en 2007-2008, ça fait presque 10 ans. On va faire le point tout à l'heure avec Davide Grandi. En attendant, voici Francesco Piu. L'album de Francesco Piu s'appelle Peace and Groove, et on va écouter une plage que j'ai sélectionnée pour vous, tout spécialement, You Feel My Soul, Francesco Piu.
Feels so good.
Voilà un album de Francesco Piu, ça nous vient d'Italie, comme il y a très très bonnes choses en Europe. Je suis au téléphone avec Davide Grandi pour le collectif des Radio Blues. Bonjour Davide.
Bonjour à tous, salut.
Ouais, alors, très heureux de t'avoir au téléphone de l'autre côté des Alpes. Hein, d'habitude, quand il y a des interviews, c'est surtout en France. Et puis là, on ouvre à l'Europe. Voilà, pour Sweet Home Chicago sur Radio 666. Le son n'est pas extraordinaire. Comment ça va, David?
Ça va très bien, merci. Bon. Et après, Francesco Piu, ça va mieux encore.
Alors, comment se passe le blues en Europe? Est-ce que tu peux nous donner déjà ton sentiment, Davide, toi qui es de l'autre côté des Alpes, en Italie? Comment ça se passe en Italie? Est-ce que le blues se porte bien?
Oui, moi je pense que le blues en Italie, en France et dans toute l'Europe, ça va vraiment très bien. Et quelquefois, je pense que ça va mieux en Europe qu'dans les États-Unis. J'ai voyagé beaucoup de fois dans le Mississippi et une fois aussi avec Francesco Piu. Il est venu avec moi.
D'accord.
Et il a joué sur la tombe de Robert Johnson et dans beaucoup d'autres places.
Oui.
Et il y a souvent des petits problèmes. Moi, je pense plus en Italie qu'en France pour le blues, que c'est l'organisation des festivals, des concerts. Moi, je pense qu'en France, vous êtes plus organisé qu'en Italie, moi.
Ah, je ne sais
je
pas.
Je dois être honnête.
Je t'avoue ne pas avoir d'éléments de comparaison, je ne peux pas dire. En tout cas, voilà, chacun vit la musique à sa façon. Et je crois que le blues, toute l'Europe s'en est emparée, hein, David.
Ah oui, mais l'European Blues Union, c'est une autre organisation qui a la... qui doit aider les musiciens, et pas seulement les musiciens, aussi les festivals et toutes les personnes qui aiment le blues, pour avoir plus d'organisation dans tous les concerts et dans toutes les choses qu'on va organiser pour cette musique. Et alors, moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses.
On peut faire beaucoup de choses, on peut fédérer beaucoup de choses. C'est aussi la raison d'être de l'European Blues Union, qui est née il y a une petite dizaine d'années maintenant, dans la tête d'organisateurs de festivals, dans la tête d'artistes, dans la tête également de patrons de labels de disques, pour fédérer toutes ces forces-là, puis qui étaient un petit peu en train de s'agiter chacune dans leur coin, dans leur pays. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, toi, Davide, et à quel titre, j'ai envie de dire, d'en faire partie de ce collectif, en fait, européen?
Mais la première fois, on a eu une congrès en Italie.
Oui.
Je dois dire que l'idée, c'est une idée italienne.
D'accord.
On a eu un congrès en Italie et mon père, qui est le directeur de le magazine Il Blues.
Il Blues, voilà.
Et il est allé là et après, quand il est retourné, il m'a dit, moi, je suis allé au meeting, mais d'abord, tu vas continuer. Et alors, j'ai continué... de travailler, je peux dire comme ça, si aussi s'il y a tous des bénévoles.
Bien sûr.
Et moi, je suis allé à Notodden la première fois, dans le 2009.
C'est ça.
Et après, on est arrivé le 2010. On a eu deux fois des blues conferences. La première fois pendant le festival, Notodden Blues Festival. La deuxième fois pendant le festival, on est arrivé Blues Festival. Et dans le 2010, c'est né l'European Blues Union. Et après, je suis... entré aussi dans le board de l'European Blues Union et je suis le président, mais sûrement de 2 ou 3 mois.
Voilà, tout jeune président, que... ouais.
Oui.
Dans le bureau et puis maintenant à la succession, c'est ça, de Thomas Roof. Hein.
Oui. Alors, excuse-moi.
Non, vas-y, continue. Je t'ai coupé bêtement, là, continue, vas-y, parce que tu étais dans le bureau.
Oui. Ok. On a fait beaucoup de choses et on a encore beaucoup de choses à faire. On a commencé, avec une challenge, parce qu'on a regardé beaucoup la mère ou grande mère, je ne sais pas comment on doit appeler, la Blues Foundation de Memphis, qui organise tous les années l'International Blues Challenge.
Oui.
Et alors les choses qu'on a organisées dans le 2011 et 2012 dans l'Allemagne, en Berlin, on a organisé l'European Blues Challenge et après l'European Blues Challenge, on a décidé de faire le challenge dans des autres pays d'Europe. Dans le 2013, on est allé en France, chez vous,
oui.
À Toulouse, et après on est allé à Riga, après à Bruxelles, en Italie aussi, et cette année en Danemark. Mais on on a pas seulement le challenge. On a beaucoup d'autres choses qui sont nées pendant les années.
Oui, alors c'est ça qui est important de dire, David, c'est que le challenge, on va dire que c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qui permet de connaître un petit peu toutes les activités de l'European Blues Union. Mais il n'y a pas que ça. Effectivement, le but, c'était peut-être de promouvoir les groupes, de les faire se rencontrer et pas forcément d'aller vers une compétition un peu stérile. On a un petit souci de téléphone quand même, c'est vrai que c'est pas facile de traverser les Alpes encore, même en 2017. Je voulais dire donc que ce challenge, c'était pas forcément la chose la plus importante de l'activité de l'European Blues Union, même si on dirait que c'est ça, quoi.
Oui, tout à fait. Parce que le challenge, c'est la chose qu'on va organiser chaque année, mais on a beaucoup de meetings. L'European Blues Union, c'est plus important pour le networking que pour le challenge. Aussi, le challenge est important pour l'event qui vont jouer là. Et après, dans le 2013, c'est né aussi à Toulouse, c'est né le Blues Market, la première fois qu'on a organisé le Blues Market. C'est une place pour tous les membres de l'European Blues Union qui peut faire le networking, qui peut montrer leur festival, leur collectif de radio blues. Les années. Et après, c'est né aussi le Blues Expo, c'est une collection de toutes les choses qui regardent le blues dans l'Europe, qui sont dans la bibliothèque en Espagne, qui s'appelle Tecla Sala. Et après, dans le 2015, on a aussi créé le Blues Hour, ce n'est pas comme les Blues Awards américaines, mais c'est pour l'européenne, pour qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie pour le blues.
D'accord.
Et ça, c'est une autre petite chose qu'on a organisée. On a beaucoup de choses à faire encore. Et dans le futur, on regarde à les jeunes. On pense que si le blues doit être une musique qui ne va pas quitter, qui va continuer dans tous les années, on doit regarder très bien à les jeunes, le blues dans l'école, les plus jeunes, avoir peut-être aussi des compétitions pour les jeunes. Et cette année, on regarde encore une fois un hôtel au nord, qui organise le Little Steven Blues Pool.
Oui.
Et notre idée, c'est d'organiser une European Blues Pool avec des professeurs européens, des musiciennes européennes, et avec des musiciennes très jeunes, qui vient d'Europe, qui ne vient pas de l'États-Unis ou des autres pays.
D'accord, c'est vrai qu'en Norvège...
On va faire dans les prochaines années.
Ouais. En Norvège, c'est quelque chose d'important pour eux. Me souviens de... on ne s'entend plus. Est-ce que tu m'entends, David ? C'est vrai que c'est un peu compliqué, les conditions. Ouais. Là, ça marche pour moi. Hein. David, est-ce que tu m'entends ? Je crois qu'on l'a perdu. On va faire une chose. On va raccrocher. On va essayer de rappeler dans quelques secondes. Hein. On va faire ça parce que les conditions sont vraiment très compliquées. Faire une tentative à nouveau. David, est-ce que tu m'entends? David Grandi au téléphone. Allô, David Grandi au téléphone. Alors pour moi, ça marche bien. Et là, je n'entends plus rien.
Allô?
Oui, ça marche là.
Ça marche?
Oui. pour moi ça marche, c'est même mieux que tout à l'heure. Je suis navré hein, pour les conditions techniques, je pense qu'il y a une partie qui vient de notre technique ici à la radio et puis une autre de peut-être de la qualité du téléphone, je ne sais pas. David, on était en train de parler de l'European Blues Union et puis particulièrement de la Norvège, donc vous allez retourner en Norvège cette année en 2016, ça sera tout comme 2009 je crois, la venue de Beth Hart et de Buddy Guy, d'ailleurs j'avais vu ça. Il y a des efforts qui sont faits en Norvège depuis fort longtemps pour les jeunes. On parlait du blues à l'école et ça c'est très important peut-être de remettre ça à un niveau européen. C'est ça l'un des objectifs de l'European Blues Union, David.
Oui, c'est vrai.
Alors, qu'est-ce qui sous-tend ça? Est-ce que c'est le fait de transmettre quelque chose? Quel est
le... Alors, dans l'European Blues Union, on pense que les jeunes, ils sont le futur. Ce n'est pas une mot très génial, mais c'est vrai. Et alors, on pense que on doit porter, on doit amener le blues à les jeunes. On va regarder encore une fois, comme j'ai dit à Notodden, ils organisent les Little Steven Blues School et on va aider leur pour organiser cette blues school pour les jeunes et avoir plus de musiciennes européennes, pas seulement de la Norvège. Et dans les années, dans le futur, on pense d'organiser une European Blues School avec des musiciennes européennes qui vont être les professeurs d'autres jeunes musiciennes encore d'Europe.
D'accord.
Alors pas des professeurs de l'États-Unis, mais les blues européennes qui, moi je pense, ils ont encore des choses à dire.
Il a encore des choses à dire, il a encore de belles heures et de beaux jours devant lui, le blues européen, c'est clair. Donc voilà, cette transmission, puis cette pédagogie, là, tout ça, bien sûr, le fait de se réunir, ça ne suffit pas toujours d'être bénévole, il faut des financements, ça coûte de l'argent. D'où vient l'argent de l'European Blues Union? Comment ça se passe?
Maintenant, on a souvent des bénévoles, je l'ai déjà dit, et on a souvent des personnes qui sont inscrites au fonds. Et l'argent vient sûrement de ça, sûrement de personnes qui des musiciens, des festivals, etc., qui s'inscrivent au European Blues Union. On a fait une demande d'argent européen, mais pas encore on a réussi d'avoir une European Grant. Alors on attend de travailler aussi pour ça. Moi je pense que les projets, c'est une des projets plus européennes qui on peut trouver dans la musique.
Oui.
Et moi, je suis sûr que dans le futur, on aura plus de membres de l'European Blues Union et aussi de l'aide de la communauté européenne.
Voilà, parce que les subventions, c'est quelque chose qui est regardé de très très près, bien entendu, il faut un projet sérieux, mais je m'étonne quand même, parce que ça fait presque 10 ans que l'European Blues Union existe, je crois qu'elle fait la promotion de valeurs qui sont, à mon avis, communes avec la communauté européenne, l'Union européenne, voilà, je ne sais pas combien d'années encore ils vont attendre pour mettre la main au portefeuille, David.
Il y a toujours des problèmes avec ça.
Ouais.
En Italie, mais aussi en Europe, parce que l'European Blues Union s'est créé en Belgique. La société, c'est là-bas.
C'est ça, le siège, oui.
C'est aussi des bénévoles. Et alors, on a fait ça parce qu'on a pensé que ça, c'est mieux pour être en contact avec l'Union européenne.
Oui.
Mais encore, on attend d'avoir des succès avec ça.
Alors je pense que voilà, tu l'as dit dès le départ de cette interview, David, le travail n'est pas fini, le travail ne sera jamais terminé parce que c'est une musique qui doit continuer à exister, à se développer, à se modifier, à se transformer, à se transcender et puis également à se mélanger peut-être avec les musiques qu'elle a générées. Le blues, c'est la musique créatrice de toutes les autres musiques américaines peut-être, mais voilà, elle continue d'étendre ses racines en Europe, on l'a dit. Il y a beaucoup de créativité dans beaucoup de pays européens. Quels sont, à titre personnel, David, tes musiciens favoris européens, bien sûr?
Moi, je pense qu'il y a des différents de blues entre le nord et le sud d'Europe.
Oui.
J'aime beaucoup le blues comme le North Hill Country Blues, mais j'aime aussi le blues électrique, le blues qui s'appelle du soul ou du gospel. Moi, je pense qu'il y a des fantastiques musiciens dans tous les pays européens. J'aime beaucoup les Italiennes, mais...
Oui, alors on parlait de Francesco Pio tout à l'heure. D'autres artistes italiens que tu aimerais bien voir fouler au pied d'autres scènes européennes, des artistes que tu voudrais, dont tu voudrais nous parler, que tu voudrais nous faire connaître.
Moi, je pense qu'elle a déjà joué en France et aussi en Belgique dans les mois passés. C'est Linda Valori.
Oui.
C'est une femme qui a une voix fantastique. Oui. Elle est vraiment très forte.
Linda Valori, oui, effectivement.
Oui.
Quels sont, pour des citoyens européens et français, en l'occurrence, pour cette interview, quels sont les endroits en Italie que tu conseillerais de visiter pour des festivals?
Alors, les endroits en Italie, on a l'Italian Blues Union, qui c'est comme l'European Blues Union italienne, et vous pouvez la trouver sur Internet, italianbluesunion.com, et aussi, si vous êtes intéressé à l'European Blues Union, l'endroit c'est europeanbluesunion.com. Vous trouvez toutes les informations là-bas. Malheureusement, un italien c'est écrit en italien pour l'Italian Blues Union, mais il y a aussi un email. Il y a des choses pour trouver des festivals, des concerts, ça vous pouvez écrire quand vous voulez.
Quels sont les festivals que tu nous conseillerais?
En Italie, on a eu pour beaucoup d'années le Pistoia Blues Festival, mais maintenant il fait seulement du rock.
Ouais.
On a le Amino Blues Festival, on a le Rootsway Roots and Blues Festival, on a le dal Mississippi al Po a Piacenza, on a le Torrita Blues Festival, c'est la place où on a organisé dal 2016 la European Blues Challenge.
Mm-hmm.
Je sais pas si ça a été là-bas. Dans le sud aussi, il y a Crosso Spignola. Il y a beaucoup de festivals.
On a
plus de petits festivals que de grands festivals.
Le Marco Fiume Blues Passion.
Marco Fiume aussi. Oui, c'est une amie. La Marco Fiume Blues Passion. Le nom s'est changé, je pense, dans Calabria Blues Festival, mais c'est le même festival. Et Maria Giulia, c'est fantastique.
Ouais, Maria Giulia Sorrentino, oui, elle est très très bien cette dame, effectivement. Il y a beaucoup de forces.
Oui.
Oui,
il y a aussi le Narcampus dans la Sardaigne. Vous pouvez aussi faire des vacances là-bas.
Et bien sûr.
Il y a beaucoup de choses, beaucoup de places, beaucoup d'endroits. Vous pouvez les trouver aussi sur la page italienne de European Blues. Dans l'European Blues, on a chaque pays. Peut organiser sa page et on a toutes les informations là-bas.
europeanbluesunion.com, j'ai mis le lien également sur la page Facebook Sweet Home Chicago. Voilà, David, je te dis à bientôt sur la route du blues, en espérant que l'European Blues Union puisse continuer à déployer ses ailes un peu partout dans d'autres pays, pourquoi pas de nouveaux pays, hein. Il n'y a pas encore toute l'Europe sur la carte.
Non, pas encore.
C'est pas fait encore.
On a encore des petits pays et on va travailler aussi pour ça.
C'est ça. Merci beaucoup, David, et puis,
à
très bientôt sur la route du blues.
À bientôt.
Au revoir. Merci. On poursuit avec Emil and the Ecstatics qui viennent de Suède. L'album s'appelle Rise Again. On va écouter Don't Worry, I Do.
Thinking about the past. Good memories are fading, but the troubles seem to last. I am the kind of man, my palate turns to gray. My pain is my pain, no matter what you say.
s'appelle Rise Again, c'est Emil and the Ecstatics, et on vient d'entendre Don't Worry, I Do. Encore mille excuses pour les conditions techniques de la première partie de cette interview de David et Grandi. Je ne sais pas si on pourra réexploiter l'interview pour qu'elle soit rediffusable, en tout cas je l'espère. Merci encore à David pour sa disponibilité et puis son excellent français. Hein, ben, je pense que voilà, c'était pas la peine que je puisse concourir pour parler en italien. Je dois connaître à peu près 3 mots d'italien, voilà. Mais merci à David et puis d'ouvrir un petit peu à l'Europe. Voilà, c'est des choses qui font du bien, notamment au blues. Voilà. On poursuit avec le disque du mois et puis juste après, je passe un petit coup de téléphone à Thierry O qui va nous parler de son action du blues dans les écoles. C'est vraiment raccord avec ce que vient de nous dire David et parce que ça, c'est l'un des objectifs hein, de l'European Blues Union, c'est la formation carrément hein, pour faire en sorte que effectivement, une fois qu'on sera tous disparus, nous les vieux cons, et bien les jeunes puissent continuer à faire cette musique qui nous fait tant vibrer. On poursuit avec Monster Mike Welch et Mike Ledbetter, l'album Right Place, Right Time. C'est un album que vous n'avez pas encore. Il faut absolument courir l'acheter. C'est chez Delta Groove Records. On va écouter I Can't Please You. Et cette fois-ci, on va l'écouter en entier, ce titre. Yeah. Voilà, c'était Monster Mike Welch et le chanteur Mike Ledbetter, l'album Right Place, Right Time, avec en special guest Laura Chavez, un album qu'on peut trouver chez Delta Groove Records. Je suis au téléphone avec Thierry O. J'espère que ça va bien passer cette fois-ci, cette interview. Bonjour Thierry.
Bonjour Marc, bonjour à tout le monde.
Alors, un petit peu plus près que David et Grandi tout à l'heure, qui lui était en Italie. Tu es où Thierry? Tu nous appelles d'où?
Eh bien, j'appelle de pas loin de Villefranche-de-Lauragais, qui est un petit village près de Toulouse, à l'est de Toulouse.
Voilà, dans la région toulousaine. On a pu évoquer ça il n'y a pas très longtemps avec Bernard Selam, que tu dois connaître forcément.
Oui, je connais bien Bernard, oui. On se rencontre de temps en temps, oui.
De Hawek. Et donc Thierry, toi, tu habites la région toulousaine depuis combien de temps maintenant? Ça fait un moment.
Alors, il y a eu plusieurs passages. Hein. J'y suis arrivé vers 1991.
Oui.
Et j'en suis parti en 1997 pour aller à Caen, jusqu'en 2000. Et un peu après 2000, je suis revenu sur Toulouse. Et depuis, je suis toujours sur Toulouse.
Et donc, tu continues à sévir dans la musique. Est-ce que tu peux nous donner, Thierry, un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, il va sûrement y en avoir deux ou trois, ton parcours musical, comment est-ce que tu en es venu à la musique et plus particulièrement au blues et à l'harmonica et au chant?
Ouh là là. Alors ça nous ramène à 30 ans en arrière tout ça. J'ai découvert le blues, c'était au lycée, vers 1983-84. Et je me suis tout de suite mis au blues, à l'harmonica, notamment. Et dès 1985, mes débuts dans le blues, c'était auprès de groupe normand. J'habitais à Bernay à l'époque.
Ouais.
Bernay dans l'Eure. Et j'ai commencé à jouer dès 1985 avec des groupes locaux. Dès 1987 même, à jouer avec notre ami Pascal Fouquet.
C'est ce que j'allais te demander justement, s'il n'y avait pas un certain Pascal Fouquet qui traînait déjà dans le secteur, parce que lui aussi, il est originaire de Bernay. Hein.
Oui, il est originaire de Bernay, plus particulièrement d'un petit village quand je l'ai connu, parce qu'on se connaît depuis belle lurette avec Pascal. Hein. On a fait notre grande communion ensemble.
Ah oui.
Ouais, c'est pas récent notre.
Ouais, je crois qu'on est tous de la même génération. Toi comme lui, comme moi également. Je pense voilà. Hein. 83, c'est ton entrée dans la vingtaine d'années, à peu près.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà.
Donc, j'ai découvert blues tardivement moi.
Ouais, mais je crois qu'on a tété aux mêmes mamelles en fait à l'époque. Hein.
À l'époque, ouais, j'ai commencé avec Sonny Boy Williamson, ouais. Johnny Winter, ZZ Top. Enfin, c'était très très divers et varié. Ça, de temps en temps, ça touchait à Muddy Waters. Bon, il n'y avait pas de direction, je veux dire, au niveau des styles. Il y avait une culture blues globale qui m'amenait à écouter des choses très diverses et variées, mais c'était pas spécialisé dans un style de blues bien particulier, soit Chicago, soit Texan, etc. Par contre, j'écoutais essentiellement de l'harmonica parce que dès 1983-84, à l'époque, pour apprendre l'harmonica, il y avait les vinyles et les cassettes, et je me passais les vinyles et les cassettes en boucle, et je reproduisais ce que j'entendais, notamment du Sonny Boy Williamson 2, qui a été mon inspiration principale.
Ouais.
Je suis passé à des choses comme Little Walter, John Scotton, enfin j'ai touché à beaucoup de choses dès cette époque-là. Et je me produisais donc dans des groupes locaux à Bernay, et rencontre avec Pascal Fouquet, avec lequel j'ai joué jusqu'en 1991, époque avec laquelle je suis parti sur Toulouse.
D'accord, pour une première fois.
Jusqu'en 1996. À Toulouse, j'ai joué aussi dans des groupes, groupe toulousain, avec des participations à des premières parties, des festivals. Ceci jusqu'en 1998, époque où je suis arrivé à Caen, et nous avons fait connaissance, Marc.
C'est vrai.
Ouais, j'y suis resté jusqu'en 2000. Là, j'ai joué aussi avec notamment les Oudoumen.
Ben c'est à ce moment-là que tu as dû enregistrer un truc comme ça, je crois.
Mountain Baby.
Voilà. C'était un album 4 titres enregistré en 98, donc avec ce titre Mountain Baby. Ça s'appelait Première Prise et c'était signé Thierry O et The Oudoumen.
Voilà, c'est ça, ouais.
On en écoute quelques secondes. When I have a little girl, it's quiet and hard at dawn. Well, she left me this morning, she knows she done me wrong. She just small town baby. She just small town baby. Voilà, ça, ça avait été enregistré chez Jean-Marc Leverrier à la ferme à côté de Caen. Hein,
Ouais, c'était première prise, ouais, c'était la première, en fait, c'était une démo qu'on avait enregistrée dès que les Oudoumen étaient formés,
ouais.
Avec Pascal Fouquet encore, qui était présent. Et les frères Marie, Bernard et Francis.
Exactement, Bernard. Bernard Marie à la basse, Francis Marie à la batterie, Pascal Fouquet à la guitare et toi-même, Thierry Haut, chant et harmonica. Voilà, ça remonte
voilà, c'est ça.
98. Voilà, et puis tu as été donc le premier chanteur des Oudoumen. Avant Philippe Brière, je crois maintenant Philippe Brière, il fait à nouveau partie des Oudoumen. Tu sais qu'ils se sont reformés.
Oui, je sais, oui, je suis toujours l'actualité cannaise à travers les amis Facebook.
Ouais.
Je vois toujours des nouvelles de Philippe, Francis. Même Pascal de temps en temps qui joue aussi avec eux encore.
Tout à fait, bien sûr, oui, parce que Pascal et Francis, avec un autre bassiste qui est Luc Milot, je crois, de temps à autre. Enfin, j'ai cru l'apercevoir, Luc.
Je connais pas, lui.
Voilà, donc les Oudoumen existent toujours. Toi, tu es parti, tu as changé de région à nouveau et tu as continué un petit peu à te produire dans différentes formations.
Alors, en 2000, je suis retourné sur Toulouse. J'ai joué jusqu'en 2002. Et puis en 2002, j'ai arrêté la musique, figure-toi.
Complètement.
Ah oui, complètement, jusqu'en 2015.
D'accord.
Et oui, j'ai arrêté parce que j'avais deux petits garçons qui étaient là et puis j'avais envie de m'en occuper, tout simplement.
Bien.
Et puis en 2015, l'opportunité s'est présentée de recommencer. Moi, j'avais pas joué depuis 2002 et je me suis dit, tiens, c'est un bon challenge, un bon défi. Les enfants sont grands, pourquoi pas reprendre la musique, le chant, l'harmonica. Et j'ai repris à Toulouse dans divers groupes, formations, duos. Et voilà, je joue de temps en temps parce que c'est plus vraiment mon activité principale, le concert. Comme tu l'as évoqué, entre-temps, c'est vrai que pendant cette rupture de 2002 à 2015, j'ai fait d'autres choses, d'autres métiers, notamment professeur,
ouais.
Histoire, géographie, français en milieu professionnel, en enseignement professionnel.
Okay.
Et est venue l'idée avec d'autres enseignants, d'autres musiciens, de faire partager notre passion pour le blues dans les écoles, qu'elles soient primaires ou dans le secondaire, un collège-lycée.
Ben c'est ça,
et nous avons monté cette association qui s'appelle Le Blues à l'école, qui intervient dans la région toulousaine, sur la métropole, hein, Toulouse métropole, un peu dans la Haute-Garonne, hein, sur le département, pour auprès des scolaires, hein, que ce soit
Voilà, on en arrive à la pédagogie justement. Alors qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça? Tu as arrêté la musique pour élever tes enfants et ensuite tu te tournes vers d'autres enfants pour leur apprendre la musique. C'est presque paradoxal.
Non, je pense pas. Paradoxal, non, je vois pas de paradoxe. Par contre, une continuité dans la passion pour le blues, pour l'enseignement, et puis le désir à certains âges de faire passer ses connaissances et ce que l'on aime d'une façon pédagogique, mais aussi ludique auprès des enfants pour leur ouvrir l'esprit. Et c'est un peu le projet du blues à l'école, hein, projet éducatif, éducation artistique et culturelle autour du blues.
Mmh.
L'association a été créée en 2015, hein, c'est une association loi 1901. Et elle intervient donc en école primaire, en collège et lycée.
Donc ça implique un agrément éducation nationale.
Oui, mais moi j'ai un agrément du rectorat.
Ouais.
Pour intervenir dans les écoles publiques, dans les écoles privées, c'est autre chose parce qu'il n'y a pas besoin d'agrément. L'école privée,
oui, ils peuvent contractualiser
plus mal, effectivement. Sur base de cet agrément. Par contre, dans les écoles publiques, oui, il faut un agrément pour intervenir de façon répétée et dans la durée, parce que ce sont souvent des projets longs qui sont sur l'année.
Mmh.
Là, cette année, on avait plusieurs classes, on avait plus de 60 séances là, dans des écoles. Autour du partage, autour de la culture du blues, ça peut passer par des ateliers sur l'apprentissage de l'harmonica, ça peut passer par des séances de connaissance du blues, ce qu'est le blues, ce qu'il exprime, suivi d'un mini-concert auprès des élèves, auprès des classes essentiellement CE2, CM1, CM2 dans les écoles primaires.
Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec un garçon qui s'appelle Greg Zlap, Greg Zlapzinski, qui fait également la même chose depuis pas mal de temps. Je ne sais pas s'il le fait toujours, parce que maintenant il est très très pris, puisque c'est l'harmoniciste de Johnny Hallyday, mais il a beaucoup fait, notamment il y a une bonne dizaine d'années, en partenariat avec le festival Blues sur scène, je me souviens de ça, où il était sponsorisé par Honor. Ça lui a permis d'offrir des harmonicas à tous les gosses et puis de les faire monter par paquet de 25 sur scène, avec tous les parents devant. Voilà, c'était des choses forcément extraordinaire pour tout le monde, hein, que ce soit pour les enseignants, pour les enfants, pour les parents d'élèves. Tu as eu l'occasion de le contacter, de discuter avec lui de cette action-là?
Alors, non, je connais Greg justement par rapport à son action dans les écoles, hein. Je m'y suis penché parce que bon, quand on a monté ça, on a un peu farfouillé sur internet, sur le net pour voir ce qui se faisait déjà, ce qui était monté, se servir en fait des expériences des autres. J'ai vu qu'il faisait ça justement en accord avec en collaboration avec Blues sur scène, qui est un précurseur dans le genre.
C'est vrai.
Hein, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en parler avec Jean Guillermo. Il y a quelques mois, qui est un peu l'initiateur de ces projets autour de au sein de Blues sur scène.
Complètement,
ils ont fait un travail magnifique là auprès des écoles, collèges, lycées, aussi bien en séances suivies sur du long terme, des masterclass, etc. Ouais, on s'est beaucoup inspiré de cette expérience. Hein, j'en ai parlé avec Jean et par contre, Greg, ouais, non, j'ai pas eu de contact avec lui.
D'accord.
Et donc, je suis au courant de son action, ouais, j'ai suivi ça. Ouais.
Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter aux enfants, ceux que tu côtoies, ceux à qui tu apprends des choses sur l'histoire du blues, sur la technique de l'instrument? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux forger dans la tête de ces enfants? Parce que la plupart du temps, on a affaire à un terrain vierge, hein, avec les gosses quand on leur parle de musique américaine. Voilà, ça. Forcément, ils pensent peut-être à autre chose, je ne sais pas.
Alors, c'est vaste question là que tu poses. Ça nous ramène au projet lui-même de l'association, aux valeurs même, je dirais, de l'association, hein, qui sont des valeurs de culture humaniste, je dirais, morale, d'égalité, de respect entre les peuples, ainsi que civique. Hein. Donc, c'est vraiment le fond de l'association, du travail qui est fourni par l'association.
Oui.
Donc, aller dans ce but, aller à la rencontre des enfants afin d'éveiller leur curiosité, participer à leur éducation artistique, puisque l'éducation artistique et culturelle maintenant fait partie des programmes de l'éducation nationale et doit être prise en compte et mise en place tout au long de leur scolarité, hein, depuis le primaire jusqu'au lycée.
On sent le prof qui parle là, Thierry, hein, ça c'est clair.
Ah ben, c'est sûr qu'il faut suivre les directives du ministère.
Bien évidemment, oui.
Ouais, parce que bon, tu vois, les changements, il faut suivre les changements. Il y a encore sur l'année scolaire 2015-2016, on avait encore l'histoire qui était incluse dans le sigle 3, c'est CE2, CM1, CM2, avec les grandes découvertes, l'esclavage, etc.
Oui.
Sujets qui ont disparu cette année scolaire, qui a été remplacé en partie par l'éducation morale et civique.
Mmh.
Et bah voilà, il faut évoluer au gré des directives ministérielles, et c'est vrai que, bah voilà, éducation morale et civique, on peut aussi nous intervenir.
Oui, parce que j'allais dire, Thierry, la liberté pédagogique, ça existe, on a des directives ministérielles, certes, mais ça dispense pas d'être intelligent et de continuer à apprendre l'histoire de l'esclavage aux gosses, parce que ça fait partie de l'histoire du monde.
Bien sûr, en plus on est c'est là que je voulais en venir, on est également dans l'éducation morale et civique à travers la prise de conscience des injustices, des errements de l'histoire, je dirais, et on peut très bien aborder ces sujets qui sont en rapport justement avec l'enseignement qui doit être amené à apporter.
Et pluridisciplinaire, forcément.
Oui, bien sûr, c'est du pluridisciplinaire. Par exemple, sur l'année dernière, dans une école, on a vraiment travaillé sur un projet interdisciplinaire avec le directeur de l'école, où le français, l'histoire, la géographie, le français, la lecture, l'écriture de textes, les arts visuels, on a tout mêlé pour arriver à une restitution de fin d'année où les enfants étaient capables de jouer 2-3 morceaux d'harmonica, de présenter une exposition de dessins sur les thèmes du bleu, d'exposer des panneaux sur lesquels ils racontaient l'histoire du blues, illustrés par leurs soins, etc., etc. Et puis même l'écriture d'une chanson qu'ils ont interprétée après en fin d'année devant toute l'école et leurs parents.
C'est génial ça, c'est vraiment rire. Moi, je suis admiratif de ce genre de travail parce qu'il faut tout mener de front et en même temps travailler en collaboration avec les enseignants, les titulaires de la classe. Comment est-ce que tu t'y prends pour les contacter? Comment est-ce que ça se passe, les premiers contacts avec les collègues, hein, pour les convaincre que ton action va être bénéfique pour les gosses?
Je dirais la prise de contact, hein, c'est classique, hein, on commence par son réseau proche et puis petit à petit on élargit. On élargit depuis cette année 2016 à l'institutionnel, puisque on recherche des collaborations avec la mairie de Toulouse qui intervient dans les écoles primaires publiques de Toulouse en proposant ce qu'on appelle les passeports pour l'art, qui sont des parcours éducatifs, artistiques et culturels proposés et financés par la mairie de Toulouse aux enfants des écoles de Toulouse. Donc, puis beaucoup de travail auprès des institutions, travail au niveau du conseil départemental, auprès des commissaires qui s'occupent de l'éducation artistique et culturelle, et également le rectorat pour être reconnu et diffusé. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il faut partir tout azimut. Ouais.
Et donc forcément, il faut se faire connaître. Alors avant, on avait le bulletin départemental. Maintenant, tout est internetisé.
Voilà.
Alors, comment tu fais pour faire part de ce que tu leur proposes?
On a un site internet avec un blog, et puis bon, il y a beaucoup de diffusion au niveau internet, comme tu le signalais, que ce soit sur Facebook ou par newsletters.
Je te propose de nous donner l'adresse, je vais la relier sur le Facebook Sweet Home Chicago dans la seconde, si tu veux bien.
Je peux te la donner un plus tard.
Tu vas me l'écrire et puis je la retransfère, il n'y a pas de souci.
Parce que je ne l'ai pas en tête.
Très bien. Je compte sur toi pour le lien après l'interview à ce moment-là. Thierry, on arrive justement au terme de cette interview. On est quasiment à 14h. On va laisser couler le générique, tranquillou.
Ouais.
866.